mauvaise chute, un verre d'eau sur le clavier ou encore une batterie défectueuse, les raisons d'emmener son produit Apple chez le réparateur sont nombreuses. Si une partie des clients se tournent directement vers l'Apple Store ou un contrat Apple Care, il existe en parallèle tout un écosystème de petits réparateurs indépendants. Des iPhone au Mac, ceux-ci peuvent parfois réparer des pannes face auxquelles Cupertino ne peut officiellement rien faire. Contrairement à des marques comme Fairphone, Apple n'est pas connu pour la très grande réparabilité de ses appareils. On pourrait même penser que les choses empirent alors que les iPhones sont de plus en plus fins et que les puces de Mac intègrent désormais autant la RAM que le GPU. Cependant, on peut noter des efforts ces derniers temps. La construction des derniers iPhones rend certains aspects plus facilement réparables, tandis qu'Apple a déployé un programme de réparation à la maison pour le grand public. Face à tout cela, que pensent les réparateurs des évolutions des produits Apple? Comment réparer des appareils Apple sans être certifié par le fabricant? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans ce nouvel épisode de Kernel Panique. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Gilles, qui est spécialisé sur la réparation de Mac et gérant de Polysoft à Tours. Salut Gilles.
Salut.
Je suis également avec Jean de JAL Technologie à Toulouse, qui est de son côté spécialisé sur la réparation et le reconditionnement d'iPhone. Bonjour Jean.
Bonjour.
Et enfin, nous avons avec nous aujourd'hui David d'Okazu à Fougères, qui dispose d'une chaîne YouTube montrant l'envers du décor. Salut David.
Salut à tous.
On va commencer par une question simple. Est-ce que vous pouvez tous trois vous présenter brièvement? Jean, si tu veux commencer.
Jean, moi, je m'appelle Jean, je suis brésilien. Je suis dans la téléphonie depuis 2004, 90 ans d'années.
Ouais.
Et j'ai habité dans plusieurs pays en Europe, en Irlande, en Hollande, en Espagne. Et en France, je suis depuis 2012. Je suis arrivé en France en 2012. La première barrière, c'était la langue. Je ne parlais pas français. Et en 2016, j'ouvre JAL Technologie. JAL Technologie, c'est une entreprise qu'aujourd'hui, on a des salariés, on a plusieurs boutiques, des réparateurs en France qui sous-traitent chez nous leurs réparations. Mmh. Et nous sommes là 5 personnes à travailler en JAL Technologie. Et depuis 2017, ouais. Voilà, la technologie est là pour faire le reconditionnement des écrans. Notre principal, notre activité principale ici, on va dire, notre spécialité, c'est le reconditionnement des écrans originaux. Voilà. On fait aussi le reconditionnement, la réparation des cartes mères et tout ça. On parlera plus tard de ça. Mais comment Apple commence à être fermé dans ces contextes-là, on est spécialiste aujourd'hui dans le reconditionnement des écrans. Voilà.
D'accord.
À Toulouse.
Ok. David, ouais, si tu peux te présenter.
Oui, donc du coup, bonjour à tous. Donc, David du magasin Okazout. Je suis principalement connu parce que j'ai ma chaîne YouTube où je montre ce que je fais lors de mes réparations en général. Alors, au départ, moi je suis horloger. J'ai eu à peu près plus de 10 ans d'expérience en tant qu'horloger. Et puis, j'ai voulu bifurquer parce que j' ai toujours aimé l'électronique. Et donc, quand mon patron a pris sa retraite, j'ai fini par ouvrir mon magasin. Ça fait donc maintenant 8 ans qu'on est ouvert. J'ai commencé du coup principalement sur les cartes mères de téléphone, les iPhones. Alors pourquoi? Parce que déjà à l'époque, même si effectivement les iPhones ont un blocage de réparation, et on va en parler, ça c'est sûr, on a aussi beaucoup d'outils qui ne sont pas bien sûr donnés par Apple, qui sont des outils indépendants, qui permettent d'avoir des schémas électroniques, des outils vraiment utiles pour la réparation, donc les board view comme on les appelle en général. Donc c'est une espèce de plan de la carte mère, et du coup grâce à ça j'ai pu commencer à réparer et à monter en expérience. Et donc j'ai continué sur les MacBooks, etc. On est seulement deux au magasin, il y a moi et ma compagne Cindy, beaucoup savent qu'on est ensemble du coup dans le magasin. On a fait ce choix principalement parce qu'on travaille avec l'armée, la police judiciaire et quelques cabinets de détectives privés pour tout ce qui est récupération de données sensibles en général. Et en fait on a voulu embaucher, on a eu malheureusement une tentative de vol dans le magasin, donc on n'a pas voulu renouveler l'expérience parce qu'en cas de souci forcément on peut pas se permettre de laisser fuiter certaines données. Donc voilà, on reste qu'à deux, comme ça au moins on ne prend plus de risques, on va dire, mais voilà.
Ok, d'accord. Et toi Gilles?
Moi j'ai un parcours un petit peu différent de Jean et David, mais j'ai commencé en 2003. J'ai commencé en 2002 comme salarié d'une entreprise et que j'ai reprise en 2003, qui s'appelle Polysoft. On est à Tours, dans le centre de la France. Et j'ai commencé en étant agréé Apple, et le truc un peu atypique, c'est que j'ai quitté l'agrément il y a 2 ans.
Ok.
Parce que, enfin, pour des raisons que j'expliquerai après. Voilà, donc là, on reste une entreprise toute petite. Mmh. Pour l'instant, on n'est que deux avec des... On a été 12 salariés, mais parce qu'on faisait aussi une sous-traitance pour une start-up. Mais en ce moment, dans l'atelier, on est deux, et puis enfin, avec quand même des apprentis et des...
Ok, d'accord. Et donc, ouais, il me semble qu'aucune de vos boutiques n'est un centre de service agréé Apple. Gilles, ouais, toi, on avait écrit un article à ce sujet fin 2021, quand tu avais décidé d'abandonner le label, donc comme tu le disais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Si tu peux juste rappeler ce que c'est qu'un centre de service agréé.
Apple a une filiale en France et Apple autorise des centres de service, enfin, ils appellent ça des centres de service agréés. Ouais. Après, il y a le niveau centre de service agréé premium. Voilà, c'était une distinction à l'époque, en tout cas.
Ouais.
Et les centres de service sont agréés par Apple pour réparer les machines en leur nom. C'est-à-dire que concrètement, Apple nous envoie des clients, enfin nous envoyait dans mon cas, des clients en panne, et on était, on devait les s'en occuper, ouais. Même sous garantie, on facturait rien, et c'est Apple qui nous payait pour faire les réparations.
D'accord.
Sous garantie. L'autre, voilà, il y a des contreparties à être agréé, c'est qu'il faut... Il faut respecter des normes, hein, des normes environnementales, des normes antistatiques, des formations de techniciens. Il y a tout un aspect qualitatif là-dessus. Et après, l'avantage, c'est d'avoir accès, du coup, aux ressources d'Apple,
ouais.
C'est-à-dire des manuels de réparation, des pièces détachées. Mais ça, en fait, aujourd'hui, on y a accès... par le programme Self-Service Repair.
Oui, c'est-à-dire que... C'est le programme de réparation à la maison qui est ouvert au grand public.
Voilà, c'est ouais. Ça. Alors, il est justement ouvert aux clients finaux, il n'est pas ouvert aux réparateurs tiers.
Ouais.
Mais disons que dans le concret, les clients peuvent acheter leurs pièces et venir nous les confier à réparer.
D'accord.
Ça peut se faire.
Okay.
Bon, comme j'expliquais un petit peu, moi, il y a 20 ans, il n'y avait pas le choix, on n'avait pas d'accès aux pièces, on n'avait pas Internet. Mmh. Enfin, on avait Internet à peine. Les pièces détachées, c'est... Nous, on les commandait par fax à Apple, on les commandait... enfin, d'abord par fax, après par une application qui s'appelle Apple Order Global.
Ouais.
Mais on n'avait pas accès aux pièces détachées qu'on peut avoir aujourd'hui, soit en se rendant sur place à Shenzhen, soit en tout simplement nouant des contacts avec des revendeurs.
Okay, ouais.
Moi, il y a eu les deux côtés, c'est-à-dire qu'à la fois, j'étais très, très frustré. Je voyais le travail de David, par exemple... ou d'autres réparateurs aux États-Unis qui ont des chaînes YouTube. Moi, honnêtement, j'étais gérant de centre de service, mais j'étais admiratif de leur travail.
À quel niveau ?
C'était grossier, les réparations qu'on faisait. On avait une panne, on remplaçait grossièrement tout un écran, on remplaçait grossièrement toute une carte mère, ouais. On remplaçait grossièrement tout un capot avec le clavier, avec le trackpad, la batterie, alors que... on savait très bien qu'il n'y avait qu'un petit composant de mort, un petit... Dans le cas de l'écran, Sajan, il vous confirmera, mais les écrans, que ce soit d'écran d'iPhone ou de Mac, il y a souvent que la vitre tactile qui est cassée ou que la dalle LCD, donc on peut changer... Ou les nappes, il fait ça, Jean, aussi, remplacer que les nappes quand il y a eu le FlexGate. Donc moi, je trouvais ça un gâchis monstrueux. J'étais... Et moi, je ne pouvais même pas m'appeler réparateur. Je m'appelais centre de service, d'ailleurs, c'est le nom. Apple dit bien centre de service, ils ne disent pas des réparateurs.
Ouais.
On pousse des cartons, on monte des pièces. Mais moi, ça me frustrait en tant que réparateur.
Ok, et donc du coup, ça t'a motivé à abandonner ce label ?
Bah oui, de toute façon, moi je parle de ce que je connais, c'est-à-dire la France. En France, il n'y avait que deux centres de réparation qui étaient indépendants d'un magasin de vente. Hein, c'était moi et un autre qui est Place Bolnois à Paris. Donc on n'était que deux à être vraiment indépendants d'un magasin, donc à avoir la liberté de dire à un client « je préfère vous réparer la machine que d'en acheter une, que vous en vendre une neuve
ouais. ».
Mais les autres centres de service, ils sont pas spécialement, ils n'ont pas cette liberté-là, ils sont tributaires d'un magasin. Mmh. Et dans les faits, on peut pratiquement pas avoir un centre de service agréé Apple qui est rentable. Moi j'en sais quelque chose, hein.
Ouais.
Qui est rentable en achetant les pièces au prix d'Apple, au prêt et au prix d'Apple. C'est-à-dire que Apple vend... Moi, quand j'achetais des pièces, des batteries d'iPhone neuves pour avoir du stock de batteries d'avance pour mes clients, je les payais 80 euros.
Ouais.
c'est hors de prix. Oui. C'était plus cher que le prix de la réparation à l'époque, parce qu'ils ont, ça a monté depuis. Oui. Donc Apple ne faisait rien pour qu'on stocke des pièces. Si on cassait un écran lors d'une réparation, on était facturé parfois 1000 euros. C'était des prix.
D'accord, oui.
L'autre aspect qui est vraiment important, c'est que donc, on ne pouvait pas être centre de réparation et ne vivre que de la réparation. Il fallait qu'on rajoute des services à côté. Mmh. Et même Apple nous le disait. Il nous disait, vendez des vitres, vendez des accessoires, vendez des choses comme ça. Alors, ils sont gentils, mais moi, je ne suis pas boutiquier. Ouais. Et puis, par contre, ce que je faisais avant, c'était bah, les clients qui avaient des machines qui avaient 5-6 ans, qui n'étaient pas en panne, ils venaient souvent me voir au bout de 5-6 ans, 7 ans... ma machine RAM, où je voudrais bien un peu plus de capacité, je voudrais mettre à jour le système. Bon, bah ça, on pouvait le faire. On pouvait mettre plus de RAM, on pouvait changer le disque dur par un SSD, on pouvait changer un SSD par un SSD plus grand. Mmh. Et ça, depuis 2016, Apple a mis toutes les machines, avec deux exceptions jusqu'en 2017, mais après, c'était fini. C'est toutes les machines ont la RAM soudée, le stockage soudé. Donc, on peut plus vivre d'activité. Enfin, on peut pas être agréé.
Ouais.
Et avoir des clients qui arrivent, qui disent « je voudrais faire évoluer ma mémoire », c'est en fait, on se met en porte-à-faux vis-à-vis d'Apple si on fait ça, parce qu'ils nous l'interdisent vraiment.
Ouais.
Voilà. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Je me suis dit, là, si je veux faire évoluer la mémoire de mes clients, si je veux continuer à faire évoluer les machines, il faut que je quitte l'agrément.
Ouais. Ok. Et Jean, toi, tu es plus spécialisé sur les iPhones, ça t'as jamais pensé à passer ce label?
Non.
Non.
au moment donné... oui, mais pas ici, ça c'était ouais. Au Brésil et avec mon associé là-bas. Sauf que ici non, parce que le comment expliquer Gilles, la problématique des ventes des pièces, c'est Apple nous bloque là. Et, ouais. Et là, par exemple, quand on va faire une réparation, aujourd'hui, là j'ai vu les vidéos de David, c'est les choses qu'on fait ici dans notre atelier. Nous, on a un atelier de reconditionnement des cartes mères aussi. Et là, mais dès qu'on va acheter une pièce chez Apple, effectivement, ils étaient fermés. Hein, mais la problématique pour nous, c'est qu'on est ouverte en fait à travailler avec différentes marques en fait. On va travailler avec le Samsung, des Xiaomi et toutes les marques. Et ça, c'est un point qui me bloque au niveau d'Apple, qu'on ne peut pas toucher d'autres...
Et c'est vrai, ils demandent l'exclusivité
en fait. Okay. C'est ça. Et d'accord. Là, ça me pose le problème d'être...
Oui, ça te coupe une partie du marché.
Ça me coupe une partie du marché, pas que. Et je vois qu'Apple, c'est déjà un concurrent direct. Comme disait Gilles, il va pousser à vendre des accessoires et des pièces, sauf qu'il y a les magasins Apple qui vendent ça en ligne, en fait.
Oui.
Et là, les prix sont déjà déterminés pour Apple. C'est eux qui déterminent le prix et le marge qui on va toucher. Et c'est pour ça qu'il ne m'intéresse pas. Voilà.
D'accord. Ok. Et toi, David?
Eh bien, je souriais pendant que j'entendais du coup Jean et Gilles expliquer leur point de vue, parce que voilà, ça rejoint, voilà, je mélange les deux et c'est exactement ça. Effectivement, le fait de pas pouvoir toucher aux cartes mères, c'est-à-dire qu'on peut effectivement pas toucher aux puces soudées ou quoi que ce soit, sinon bah on finirait radié par le service finalement.
Ouais.
Je dirais qu'aujourd'hui, à l'époque, en plus moi je suis arrivé un peu plus tard, c'est-à-dire qu'à l'époque ça aurait peut-être été utile pour moi. Aujourd'hui non, car voilà, on a plein de fournisseurs qu'on peut trouver, voilà, soit en Chine effectivement, soit même en Europe maintenant, où on peut trouver la plupart des pièces dont on pourrait avoir besoin, comme voilà un écran, une batterie, qui sont même plus forcément d'origine d'ailleurs, parce que maintenant on a beaucoup de pièces compatibles qui sont finalement de bonne facture.
Ouais.
Là, c'est après au client final de choisir ce qu'il souhaite faire. Et puis, bah, bon, effectivement, comme je suis vraiment spécialisé sur la réparation de cartes mères, je pourrais de toute façon même pas accéder à ce truc-là. Enfin, voilà, il aurait fallu que j'arrête totalement la micro-soudure. Et pour moi, c'était absolument hors de question parce que bah, c'est mon cœur de métier finalement et c'est ce que j'aime faire. Je préfère passer ma journée sur une carte mère à chercher d'où vient le problème plutôt que de simplement remplacer voilà, un écran, une batterie. Ça me plairait pas du tout. Et puis, effectivement, vient la question rentabilité, je rejoins tout à fait ce que disait Gilles. pour moi, c'est absolument pas rentable de faire ça. Je veux dire, je suis dans une petite ville, finalement, je pourrais pas survivre si je faisais que du changement de pièces. Voilà, donc il y a tout ce système-là, et puis je rajoute mes petits points à moi, finalement, personnels, mais voilà. Et il y a aussi le fait que Apple a toujours eu cette politique assez fermée, assez un peu... étrange, si je peux dire ça comme ça. Bon, après, ça peut se comprendre aussi, ils ont leur politique et leur fonctionnement, chacun fait comme il le sent, on va dire, mais je me reconnaissais pas du tout dans leur façon de travailler, que ce soit en tant qu'indépendant, et donc les rejoindre, ou même leur façon de fonctionner à eux dans les entreprises. Je trouve ça assez vraiment très fermé, je peux pas le dire autrement. D'accord. Effectivement.
Gilles, c'est un handicap de pas être un centre agréé, du coup ? Parce que c'est quoi l'avantage pour le client, par exemple, de venir chez toi plutôt que d'aller en Apple Store ?
Le client ne peut faire réparer ses machines, donc ses iPhones ou ses iPads ou ses Mac, qu'en centre agréé.
Ouais.
Donc, quand on est sous garantie, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de préciser. Donc, sous garantie, d'ailleurs, si on n'est pas agréé et qu'on prétend faire de la garantie, on ment au client, puis de toute façon, on ne se fera jamais rembourser par Apple. Ça pose un problème parce que, par exemple, je me mets dans la peau d'un client qui n'a pas fait ses sauvegardes.
Ouais.
Il verse un verre d'eau sur sa machine ou quelqu'un d'autre. Bon. Le client, il va être obligé d'aller en centre de service agréé. Et qu'est-ce que font les centres de service agréés ? Il commande une carte mère de manière indiscriminée, il la remplace et l'ancienne va au rebut. Et le client ne peut pas faire valoir son droit à la garantie et simultanément demander une récupération de données.
Tout à fait.
Okay.
Alors ça, c'est extrêmement frustrant, hein, pour un client. Alors, il commence à réfléchir un peu au problème, mais on est plus de 8 ans après les premières machines soudées. Hein. C'est un vrai problème. Quoi. C'est un vrai problème. Et bon, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense qu'autour de vous, si vous voyez 10 personnes sur 10 qui ont sauvegardé leurs données, si vous verrez,
oui.
La moyenne que je constate, c'est 1 sur 10.
La question, c'est qu'on vit, en fait, là... La phrase qu'on utilise ici, nous, pardon, on n'est pas, on fait pas des réparations, on résout des problèmes. Hein, on résout les problèmes.
Ouais.
Là, des journées qui nous arrivent 25, 20 téléphones avec la même problématique. Hein. Il essaie de réparer, il a mis un coup de circuit de la carte mère, il n'est pas fait de sauvegarde, il veut impérativement les données de clients. Et c'est là qu'il faut avoir un savoir-faire. De travailler sur cette carte mère, de allumer, de récupérer les données. C'est là qu'Apple, aujourd'hui, bon, c'était plus facile avant, mais ça commence à compliquer les choses. Bon, on est capable de récupérer les données, allumer cette carte mère, et ce qui dit Gilles, récupérer les données du client. Voilà.
Ouais.
Faut savoir un truc surprenant, c'est de l'extérieur, on peut s'imaginer que les centres de services agréés, ils ont accès au schéma. Des cartes mères. Et c'est pas vrai du tout, ça a jamais... Enfin, ça a été vrai, il y a... Moi, j'ai des vieux classeurs de schémas qui étaient donnés au centre de services agréés il y a 40 ans, parce que mon centre, il est issu d'un magasin qui avait 40 ans. Et ça se faisait il y a 40 ans. Mais encore, c'était de manière très limitée, ça s'est vite arrêté.
Ouais.
Et on va dire, c'est paradoxal, mais le client qui a vraiment un problème de données, qui a perdu ses données, qui veut une réparation... Sans même parler de le faire au moindre coût, hein, parce que ça, c'est aussi un autre aspect. Mais le simple fait d'accéder à ces données, Apple leur interdit de le faire avec les procédures actuelles. Et c'est contre-intuitif. C'est au lieu d'aller dans un centre agréé pour récupérer ces données, il faut aller dans un centre qui n'est pas agréé pour que David ou Jean, ils réparent la carte mère pour pouvoir la faire repartir et récupérer les données. Et ils font des miracles.
Ouais. On essaye.
Ouais, non, mais vous en faites. Enfin, c'est voilà.
Si le processeur n'est pas touché, on peut faire quelque chose.
Voilà, il y a des cas désespérés, mais disons que la plupart du temps, c'est en tout cas, c'est pas la procédure Apple qui permet de faire des récupérations de données.
Du coup, de ce que je comprends bien, c'est que vous avez plus de liberté que ce que vous laisse faire Apple, en fait.
Tout à fait. C'est ça.
Mais du coup, David, je me demandais comment vous faites vos diagnostics sans avoir sous la main les outils d'Apple ?
Alors, c'est assez drôle comme question parce qu'en fait, on n'en a absolument pas besoin. Quand j'ai besoin de faire un diagnostic, finalement, tout ce dont j'ai besoin, c'est bien sûr du téléphone, hein, ça c'est sûr, de quelques accessoires et appareils, donc un multimètre, une alimentation stabilisée, une caméra thermique, un oscilloscope pour des pannes vraiment plus complexes où j'ai vraiment besoin de pousser la recherche, et puis bien sûr de ces fameux schémas dont je parlais tout à l'heure, qui sont même pas vraiment obligatoire finalement parce qu'avec l'expérience on finit par comprendre comment fonctionne une carte mère et l'avantage d'Apple, par contre, c'est qu'ils ont toujours gardé cette espèce de ligne directive. La fabrication des cartes mères est toujours plus ou moins conçue de la même manière. Bon, il y a un ajout de composants forcément de plus en plus complexes, comme par exemple pour intégrer la 5G. Je parle à l'époque les Face ID. Voilà, tous ces appareils-là vont faire qu'on a des choses en plus. Mais finalement, pour démarrer le téléphone, on a toujours plus ou moins la même conception, à savoir une puce d'alimentation principale, un processeur, une mémoire pour stocker les données, voilà, et c'était terminé. Et finalement, une fois qu'on a compris comment tout ça fonctionne, il n'y a pas eu de grosses évolutions majeures là-dessus. Donc finalement, les schémas sont même pas réellement obligatoires toujours, à vrai dire.
Okay.
En fait, là, oui, c'est que je suis d'accord avec David dans un point qui est pour nous qui faisons la réparation, qu'on a l'expérience depuis quelques années, ça va, c'est bon. Pourquoi ? Parce que ces schémas nous donnent un ordre, un guide, un chemin. Hein, c'est en fait une structure de la carte mère qu'on peut mesurer des tensions et savoir chercher la panne et tout ça. Sauf que jusque la gamme d'iPhone 12, on avait ces schémas-là. Apple, à partir du 13, elle commence à bloquer. Elle n'est plus disponible. Donc pour ceux qui veulent rentrer maintenant, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué.
Nous, on prend la carte mère avec l'expérience, on sait où on va checker, on va chercher la panne, on va trouver plus facilement. Elle a des... voilà, qui va rentrer maintenant, c'est pas facile. Voilà.
D'accord. Et au niveau de la documentation, du coup, vous faites appel aux données d'Apple là, qui sont disponibles depuis quelques temps ?
Du tout. Non. En fait, on a accès à des logiciels. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner des noms, mais je pense que oui.
Oui.
En gros, on utilise des logiciels comme par exemple XingZiZao, qui sont des logiciels bornéo schématiques, ZW, voilà, tous ces logiciels en fait sont des logiciels développés alors principalement en Chine en général, mais c'est pas toujours le cas, par des équipes voilà qui eux ont réussi à sortir les schémas d'une façon qui je suppose n'est pas légale, voilà, je sais pas comment ça se passe, je pense que ça doit être peut-être des taupes en fait hein, qui sont dans les usines de fabrication, j'imagine du côté des ingénieurs aussi peut-être. Ouais. Bref, ces schémas finissent par fuiter, se retrouver du coup dans les mains de ces équipes qui, grâce à ces schémas, vont finalement développer toute la partie logicielle pour pouvoir faire la recherche de panne sur nos cartes mères. Okay. Donc après, nous, on paye un abonnement à l'année en général et on renouvelle la licence tous les ans au besoin. Il y a plusieurs logiciels, certains vont être plus axés sur par exemple les Samsung, d'autres voilà, pour tout ce qui va être Apple. Donc voilà, et ces logiciels sont formidables pour nous pour pouvoir faire de la recherche parce qu'on a vraiment la conception presque complète de la carte mère là-dessus quoi.
Ok, d'accord.
Faut savoir que le problème n'est pas lié, enfin n'est pas que pour Apple puisque aucun fabricant ne donne les schémas.
Oui. Voilà. Et évidemment le but du jeu pour eux c'est d'éviter la réparation et puis le secret industriel aussi forcément quoi.
En fait là il y a des entreprises dédiées à ça. Par exemple, je connais une entreprise ou PBU, ils font que ça, ils prennent la carte mère, ils vont ouvrir cette carte mère et ils vont commencer à copier ces données et préparer ces schémas. En fait, ils vont créer une structure pour après revendre pour des réparateurs comme moi, comme David, qui en est là-dedans. Voilà.
Et là, tout à fait. PBU, voilà.
On est Inde qui fait ça aussi. Et voilà.
Ok. Et c'est marrant parce qu'on écrit, enfin j'ai l'impression qu'on a pas mal écrit que les iPhones étaient de plus en plus facilement réparables. Et paradoxalement, on a l'impression que les verrous logiciels, ça progresse aussi.
Oui.
Jean, toi, t'es spécialisé sur les iPhones. Est-ce que t'as l'impression qu'Apple vous met des bâtons dans les roues ou t'estimes plutôt que ça va dans le bon sens ?
Quand vous parlez des réparations, vous parlez de la complexité des réparations des niveaux des cartes mères ou en général, la question ?
En général,
là, on vient de voir un gros changement au niveau de iOS 18.
Oui.
Ouais.
Dès qu'il sort
tout à fait.
18, là, on est capable. Je croyais qu'on était en un caméra, j'ai préparé ici certains exemples. Moi, ça fait 3 ans, depuis 3 ans, que j'ai j'ai commencé à travailler que avec du matériel d'origine, reconditionné des écrans originaux. Et là, on commence à voir, par exemple, depuis qu'Apple a lancé sa carte mère, on va dire l'iPhone X, les cartes mères sont un sandwich, une collée sur l'autre. Effectivement, ces cartes mères-là, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué à travailler avec. Mais avec l'OS 18, maintenant, on peut valider un produit Apple. On peut acheter, par exemple, un écran ReLife reconditionné et valider cet écran, la caméra, ses composants dans un téléphone. Hein. Je pense que c'est plus facile pour celui-là qui fait que le changement des pièces. Mais pour nous, qui faisons le reconditionnement, la réparation des cartes à mère, c'est plus compliqué pour moi, dans le sens de la sécurité d'Apple, en fait. Apple, là maintenant, avant, je parle par rapport au temps passé avec. On a machine, on a carte mère. On va réparer une carte mère maintenant. Là, on a besoin des deux. Et là, au niveau de sécurité, ils ont augmenté beaucoup. Il a besoin des deux validations des Face ID. Si on n'est pas le client en face, on ne peut pas donner suite à cette réparation, en fait. Ça nous bloque D'accord. beaucoup. Mais je pense que ça dépend du niveau des réparateurs, de ce qu'ils proposent certains réparateurs. Ça peut être pas mal dans le sens d'acheter des pièces. Parce que figurez-vous qu'avant, les téléphones Android, par exemple, depuis le début, ils vendaient des service pack. Hein, on pouvait acheter la pièce d'origine. Contrairement à Apple, qui avait commencé à vendre, à libérer l'achat de son matériel. Voilà.
Ouais.
Non, mais au niveau des réparations, je trouve que c'est plus compliqué, en fait. Ça se complique plus de choses.
À quel niveau ? Enfin, au niveau des... Parce qu'en fait, on a l'impression que les iPhones, ils deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus fins. Et que leurs plans sont peut-être de plus en plus... Enfin, que c'est de plus en plus accessible sous le capot. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses ?
En fait, ce qu'on a fait ici, au niveau de reconditionnement des écrans, ouais. Apple, jusqu'à l'iPhone 8 Plus, les écrans, ils étaient un LCD. Ils utilisaient la technologie LCD. À partir du X, ils utilisent le OLED. Après, il y a eu une coupure entre le 11 XR, qui sont aussi LCD. Mais à part de ça, on peut reconditionner. Nous, ce qu'on a fait ici, on a fait un investissement sur les machines pour pouvoir reconditionner ces écrans. Moi, je trouve beaucoup plus simple. Au niveau de reconditionnement d'écran, c'est génial. Hein, je trouve ça super bien. Ouais. Ça évolue beaucoup. Un écran OLED, un écran AMOLED. Expliquer ça à un client qui procède un écran OLED, qu'on peut le reconditionner cet écran. Et on ne va pas avoir un problème. Puis j'ai déjà eu le cas de voir quelqu'un installer un écran LCD sur un iPhone 14 Pro Max. Le téléphone commence à chauffer parce que c'est pas une pièce adaptée pour cet appareil. Ben non, ouais. Et venez, je ne comprends pas pourquoi ça chauffe, parce que c'est un écran LCD, voilà, c'est tout à fait ça. Mais dans le sens, maintenant, on peut acheter un écran OLED et en plus, le client, je me pose à la place du client, hein, parce qu'avant, on installait un écran même original. Et là, il avait un message, tout le monde connaît tous ces messages-là, en disant ça, c'est pas sa pièce d'origine, même en tant qu'original, il avait un message. Ouais. Et là, c'est là qu'est rentré le travail que je pense que David connaît aussi, de transférer les puces pour l'information, la reprogrammation.
Tout à fait.
On pouvait passer une journée avec rien qu'un changement d'un écran. Et maintenant, avec l'iOS 18, on peut valider cette pièce, voilà, et on peut reconditionner cet écran et proposer à les clients un écran original Apple reconditionné.
Ok.
C'est là qu'Apple, ils ont fait un pas en avant et ils ont fait un pas en arrière, un pas en avant. Mmh. Ils ont fait. Si on prend les iPhones très anciens, les Edge, les 3, les 3G, 3GS, il n'y avait rien de tout ça. Après, ça c'est devenu plus compliqué. Il y a eu des verrous logiciels sur les batteries, sur les écrans. Ouais. Et donc, comme disent Jean et David, ça. C'est horrible au niveau de la réparation, parce qu'on change une pièce, mais on est obligé de dessouder en micro-soudure La puce qui est une sorte d'EPROM, enfin c'est plus que ça, mais voilà, c'est une puce qui est incopiable et qui contient le numéro de série de l'écran ou de la batterie. Okay.
Tout à fait, ouais, c'est ça.
Et donc Apple interdisait totalement de changer des pièces si on n'avait pas la pièce d'origine. Enfin, l'iPhone des fois ne se restaurait même pas, il faisait des erreurs type 9, des erreurs.
D'accord. Voilà.
Oui, on se rappelle tout ce que j'ai dit pour. Enfin, oui, c'est ça pour les iPhones, je crois que c'était les 5S, il me semble.
Ouais. Voilà. Oui, les Touch ID, voilà.
Ouais.
Donc ça, ça a été vraiment la croix et la bannière, c'était vraiment. Très, je sais pas, toxique ou contre, oui, enfin, c'était vraiment contre la réparation, ces choses-là. Donc là, iOS 18, comment dire, il permet de remettre des pièces soit d'occasion, soit reconditionnées,
okay.
Et de les accepter. Alors attention, parce qu'il y a l'effet inverse, c'est-à-dire que moi j'ai entendu parler de cas de gens qui avaient pris un écran d'occasion. Qui était un écran qui appartenait à l'iPhone volé, en fait.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà. Cet écran-là a marché très bien pendant des années. Puis là, depuis iOS 18, l'écran est reconnu comme faisant partie de l'iPhone volé. Donc,
ah oui, j'ai vu qu'il avait ajouté un système d'identification des pièces sur le compte Apple.
Tout à fait. Ce que je trouve.
Qui se comprend, mais.
Ce que je trouve une bonne chose, en fait. Sauf pour le client qui, lui, malheureusement. En fait, il faut savoir que, malheureusement, il y a beaucoup de magasins qui vont vendre des pièces qui vont être pulled, donc qui vont être récupérées d'un iPhone pour pièces forcément, et qui effectivement, comme dit Gilles, peuvent être des iPhones volés. Le problème, c'est que le client final ne le sait pas, et parfois même le vendeur de la pièce ne le sait pas non plus finalement. Si la carte mère est trop abîmée pour avoir accès à l'email ou quoi que ce soit, on n'a aucun historique du téléphone. Donc en fait, on ne sait pas réellement d'où vient la pièce, et là ça peut devenir très compliqué, donc c'est vrai que c'est un peu délicat.
Et puis c'est même pas si l'iPhone est volé en fait, hein, parce que
tout à fait, oui, bloqué.
Il y a le cas de tous les appareils qui sont gérés par, qui sont déployés par MDM, et là, ça pose un vrai problème.
Hein, MDM, parce que c'est quoi ? C'est les flottes pour les entreprises, c'est ça ?
C'est Mobile Device Management, c'est-à-dire, oui, c'est les flottes d'entreprises.
D'accord.
Donc, il y a des solutions comme Jamf, etc., qui sont très pointues, c'est-à-dire qu'un salarié, quand il rentre, on lui donne un appareil, quand il ressort, on récupère. Il ne peut pas récupérer l'appareil. On gère à distance, enfin, les DSI gèrent les flottes.
Ouais.
Sauf que le problème, c'est que c'est rare que quand un DSI revend une flotte d'appareils au bout de 3 ans à un broker, il ne retire pas les appareils de la flotte proprement. Et on voit, enfin moi j'ai vu ça, des appareils qui sont inutilisables, littéralement. Alors il y a des sortes de cracks, qui font remarcher le téléphone un petit peu, mais ça plante au prochain redémarrage, en fait, quoi. Il y a aucune solution définitive.
Il n'y a rien de formidable, oui.
Oui, non. C'est un iPhone qui a appartenu à une entreprise. S'il n'est pas sorti de l'entreprise, il appartient définitivement à l'entreprise.
D'accord.
Et dès qu'il est re-restauré ou cédé à quelqu'un, il est bloqué.
Okay, ouais.
Là, on rentre vraiment dans tout ce qui va être protection Apple. Ça a toujours été un peu leur cœur de force, si je peux dire ça comme ça, où effectivement la sécurité fait vraiment partie intégrante de l'appareil de chez Apple. Ouais. Ça, c'est autant un avantage qu'un inconvénient, ça c'est clair.
Alors, en soi, c'est très bien, mais ils fournissent pas du tout. Il n'y a aucun reconditionneur qui peut se permettre de. Parce que la procédure pour débloquer un appareil, pour le sortir du MDM, du management. C'est très très long, il faut envoyer des factures par fax à Apple ou ça met 2 jours. Aucun reconditionneur ne fait ça et on se retrouve avec des pièces dans la nature, on ne sait même pas de quel appareil elles appartiennent.
C'est ça.
Donc au final, il y a beaucoup de machines qui partent au broyeur.
Okay, ouais.
Alors qu'elles ont été rachetées légalement par des reconditionneurs, par des brokers.
Il y a un point aussi, je ne sais pas si vous avez suivi ça, en 2019, il y a un gros blocage des smartphones, surtout d'iPhone, en France par rapport à Free. Vous avez vu ça, Blacklist.
Oui, tout à fait. Oui.
En 2019, Free a bloqué 300 000 téléphones en France.
Parce que les appareils chez Free sont loués.
Ils sont loués
aux clients, ils ne sont pas vendus.
Ils ont loué, les gens louent le téléphone, après ils venaient en boutique, ils nous vendaient ces téléphones. Ensuite, Free bloquait le IMEI, il devenait Blacklist. Il a le Blacklist,
d'accord.
Maintenant il rentre la même histoire là. On ne peut pas activer cette pièce avec le iOS 18. Il reconnaît qu'il a un blocage sur la pièce, en fait.
D'accord.
Ça, c'est au niveau de la législation, c'est tout à fait normal. Ouais. L'iPhone appartient à Free tant que le client n'a pas payé la machine jusqu'au bout.
Je trouve que c'est une bonne chose pour le coup, mais malheureusement, effectivement, le seul souci, c'est que en tant que réparateur, que ce soit indépendant ou même un particulier, n'a pas toujours la possibilité de vérifier que ce téléphone est réellement libre de tout achat, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas vérifier, en fait. Le problème, il est vraiment là.
Il vient après 18 mois après. J'ai vu des cas 18 mois après, le problème est venu là.
C'est ça. Ça peut prendre beaucoup de temps et pour s'en apercevoir, tout à fait, ouais.
Ok, ouais. David, comme je le disais en introduction, tu montres à quoi ressemblent tes interventions sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as un avis sur le programme de réparation à la maison qu'a lancé Apple ?
Je suis assez tranché là-dessus. L'idée est bonne à la base. Malheureusement, le prix que ça peut coûter pour réparer soi-même et donc recevoir la petite valisette, si je peux dire ça comme ça, parce que parfois elle peut être très grosse, de chez Apple, c'est pas valable en fait. C'est pas valable parce que quand on s'aperçoit du prix qu'ils prennent, quand on veut le faire soi et du prix qu'ils prennent, que ce soit en centre agréé ou même du coup chez un réparateur indépendant, les clients font très souvent le choix de faire réparer plutôt que de toucher par eux-mêmes. À part pour ceux qui sont plutôt curieux et qui ont vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, l'idée était bonne au départ. Malheureusement, le tarif fait que... je pense qu'ils ils ont surtout mis ça en place pour répondre à une attaque politique qui venait surtout du côté des États-Unis, où justement, voilà, où Apple était un peu mis pointé du doigt pour dire, voilà, on ne peut pas réparer, personne ne peut réparer vos appareils. Et là, Apple a dit, bah, regardez, maintenant, on peut le faire, mais par contre, le tarif, forcément, là, voilà, donc c'est juste pour dire, c'est possible.
Okay. Alors, les tarifs, c'est exactement les tarifs auxquels les centres de services agréés achètent leur place.
Voilà, donc j'avais un doute là-dessus, et donc en fait, autant le faire faire par quelqu'un qui, en cas de problème, pourra reprendre une autre pièce plutôt que de casser l'écran ou la batterie soi-même ou même le téléphone complet, où là le risque il est quand même assez grand.
Parce que même de mémoire, les prix au final pour l'utilisateur, ça revenait, c'était une dizaine d'euros moins cher que de passer en Apple Store.
C'était ça que j'avais en tête, tout à fait. Donc c'est pas valable finalement.
Nous on avait le problème, c'est-à-dire que nous, quand j'étais agréé, on avait le problème que les prix des Apple Store étaient des fois moins chers hors taxe que TTC, dire, que nous, notre prix d'achat de la pièce auprès d'Apple. Après, il y a des accords. Par exemple, la chaîne Darty a été agréée auprès d'Apple. Je pense qu'ils ont négocié des tarifs meilleurs que ce qu'on avait comme magasin indépendant. Mais globalement, les prix que font Apple, ils font aucun cadeau au niveau des pièces. Et c'est pas des prix qui poussent à la réparation, clairement.
Plus ça va, plus les produits Apple sont fins et soudés. Gilles, les puces Apple Silicone, du coup, elles intègrent maintenant la RAM en plus du CPU, du GPU, donc j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué à réparer. Est-ce qu'Apple s'arrange quand même pour que son design permette de réparer les Macs sans trop de difficultés ?
Ah bah non, on a l'impression que les ingénieurs Apple, ils sortent pas de leur labo, quoi. C'est-à-dire, ils travaillent dans leur labo, mais je pense qu'ils ont jamais mis les pieds dans un centre de réparation. Encore moins dans d'autres pays que les États-Unis. Et ça se voit. Bon, moi qui suis, je suis un peu vieux. J'ai 45 ans, mais aussi j'ai touché les Macs dès que j'étais tout petit. J'ai vu des machines qui étaient faites pour être ouvertes avec aucun outil. C'était les LC. Enfin, pour ceux qui connaissent, voilà, c'était des machines. Le capot était clipsé. On démontait tout avec aucun outil. Il y a même une keynote de l'ancien patron de la division hardware d'Apple qui s'appelait Jean-Louis Gasset à l'époque. Il avait montré le premier ordinateur portable d'Apple. Il avait tout démonté en keynote. Il avait tout remonté à la main. Là, c'était fait pour être ouvert, démonté, réparé. Moi, j'ai connu des machines absolument stupides au niveau de la conception. C'est-à-dire, par exemple, le PowerBook G4 qui était une machine adorable. Si on avait cassé le câble Wi-Fi, l'antenne Wi-Fi, il fallait démonter toute la machine du début à la fin. Et c'était... Il y avait 200 vis, c'était une tannée, c'était... D'accord. On y passait 4 heures, 4-5 heures au minimum. Donc au niveau de la conception pour réparer, moi j'ai toujours une phrase, c'est simple de faire compliqué, c'est compliqué de faire simple. Alors Apple, ils savent faire compliqué, ça, il n'y a pas de problème. Ils savent faire... Et au niveau de la conception, il y a des fois où on sent qu'Apple fait des efforts, mais alors la plupart du temps, c'est non. Pour ceux qui ont mis leurs mains dans les MacBook Pro de 2016-2017, où si on a une touche de morte, on peut même pas changer le mécanisme sous la touche, le mécanisme de papillon. Enfin, on peut pas le changer officiellement, ni officiellement. Et donc, il faut, faut démonter tout le capot, il faut démonter une antenne Wi-Fi avec 25 vis catalogue T2. Enfin, c'est...
J'en ai encore fait un la semaine dernière.
Ah ben moi, j'en fais tous les jours. Et, voilà, à chaque fois que je rentre cette machine-là, il ne faut pas qu'on me dérange, il faut que je sois isolé.
Ouais, c'est, ils sont longs à faire, oui, tout à fait. Ouais,
ouais, c'est pas des machines qui sont faites pour être ouvertes. Quand je fais un PC, là, je souffle et je respire parce que j'ai 10 vis à faire pour démonter et accéder à la carte mère. Et voilà. Il y a eu plein de trucs comme ça. Hein. Moi, je peux citer des. D'ailleurs, dans Mac Génération, il y a eu un article des pires machines du SAV. On les reconnaît toutes. Alors, les nouvelles machines, elles sont quand même. Il y a des petits progrès par-ci par-là. Il y a les. Je vois qu'Apple, ils ont permis qu'on remplace les trackpads à partir des MacBook Air de 2019. 2018-2019, parce qu'avant on ne pouvait pas les remplacer sans décoller la batterie, on n'avait pas le droit de décoller la batterie.
D'accord.
Voilà, ça c'est des petits progrès, mais c'est des progrès minuscules, c'est-à-dire que les machines restent globalement. Enfin, je fais la comparaison à l'automobile. En automobile, on avait des barèmes pour dire pour changer telle pièce, il faut tant d'heures. En automobile, il y a eu les mêmes problèmes. Il y avait des voitures où, pour démonter une ampoule d'un phare, il fallait démonter l'aile et puis le bouclier avant. Chez Apple, c'est la même chose. Pour démonter des petites choses simples, c'est pas conçu pour être réparé facilement.
D'accord.
Les machines les pires, c'est les touches barres. Hein, tout ce qui était avec les touches barres, avec les... voilà, il y a eu des petits progrès, mais... Voilà, ça c'est au niveau de la facilité de démontage, c'est vraiment pas ça, quoi.
Ouais, et puis là où moi ça me dérange énormément, je rejoins tout à fait ce que dit Gilles, et il y a aussi une subtilité qui est très importante sur les cartes mères. Alors là, on parle autant des iPhones que des iPads, que des MacBooks récents. Si la puce Wi-Fi vous lâche sur la carte mère, il nous est impossible de la changer. Il y a un numéro de série qui est intégré maintenant dans la puce, donc à l'époque c'était dans la T2, maintenant c'est dans la puce M1, M2, M3, M4, voilà.
Et en fait, on peut pouvoir programmer.
Oui, mais maintenant on peut même plus débinder. À l'époque, en fait, on devait débinder dans la mémoire ce fameux numéro de série qui gérait la puce Wi-Fi, si je peux simplifier le truc. Aujourd'hui, on ne peut même plus accéder à cet unbind parce que l'information est contenue dans le processeur qui n'est pas écrivable finalement. On peut pas écrire dessus. Ce qui veut donc dire qu'on peut plus dire à la carte mère cette puce Wi-Fi va être changée pour tel numéro de série. Non. Donc en fait, si la puce Wi-Fi nous lâche, on n'a plus de Wi-Fi sur la machine, à part si on branche un dongle. Mais voilà.
C'est même pire, c'est que tu ne peux pas la restaurer, en fait.
Exactement, tout à fait. On ne peut pas la restaurer. Ça pose vraiment de gros problèmes de réparabilité sur la carte mère. Ça, c'est vraiment un gros point noir là-dessus actuellement.
En fait, les machines n'appartiennent pas aux clients. Hein. Aujourd'hui, un iPhone ou un Mac, il ne peut fonctionner que s'il est restauré. Et quand il est restauré, il ne peut être restauré que si les serveurs d'Apple
l'autorise.
Donne le feu vert. Voilà. Et alors, on ne sait pas combien de temps Apple va laisser les serveurs activés pour telle ou telle machine. Il y a déjà un vrai problème, c'est qu'on ne peut pas redescendre en système des iPhones. Hein.
Oui.
Alors, ça ne pose pas des gros problèmes pour la plupart des gens, mais ça pose des problèmes pour des applications qui n'existent que sur certaines versions.
Oui. Tout à fait.
En entreprise, c'est infernal. Et la machine ne nous appartient pas, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a. Il y a des verrous logiciels, et les verrous logiciels sont liés au numéro de série de la pièce, du processeur. Donc, nous, en tant que réparateur, on ne pourra jamais, jamais, jamais acheter un processeur M1 avec sa puce Wi-Fi.
Ouais.
Apple ne fournira jamais ça. On pourra les récupérer dans des cartes mères qui ont pris l'eau, par exemple.
Donneuses, tout à fait, oui.
Voilà. Mais on ne pourra pas acheter, comme on le faisait sur les machines Intel, on achetait des puces... des CPU, des systèmes on-chip, des cartes graphiques, etc. Ça, on pouvait le faire.
Okay.
Donc le paradoxe, c'est que les M1 sont des machines extrêmement fiables. Enfin, tout ce qui est Apple Silicon, c'est...
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas de défaut. Voilà, c'est vraiment des machines remarquables. Hein. Mais même s'il n'y a pas de défaut, il y a quand même des pannes.
Ouais.
Il y a quand même des événements extérieurs, des surtensions, des choses comme ça. Là, voilà, on est face à des machines qui ne pourront pas être restaurées dans 20 ans. Quand il y aura des collectionneurs dans 20 ans, ils voudront restaurer des machines. Bon, ce ne sera pas possible. Donc, on est face à une durée de vie qui est artificielle.
Hein, ouais.
qui est
limitée.
Liée à... Voilà. c'est pas lié à la... Moi, les machines, aujourd'hui, je les vois durer 15 ans. Mais voilà. Mais c'était possible. Je vois des machines Intel, les gens les utilisent toujours au bout de 15 ans. Parce que techniquement, ça marche. Techniquement, elles sont bien fabriquées. Les condensateurs, on sait comment les faire vieillir maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne savait pas comment vieillissaient les composants. On n'avait pas d'expérience comme ça. Aujourd'hui, on sait faire tenir des machines 10, 15, 20 ans si on veut. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne sera simplement plus le cas parce que la machine, moins de mise à jour, moins de restauration, il faut qu'Apple donne le feu vert. Okay, ouais. Et ça, c'est... On pourra faire qu'en vampirisant une autre machine qui marche. Donc ça, c'est un vrai problème sur le long terme.
Oui. Ouais.
Jean, d'ailleurs, à ce niveau, est-ce que la réparation elle est plus facile dans le monde Android ?
Je dirais que Apple est là, on peut trouver les pièces du modèle Apple. Ce sont des pièces plus, on va dire, uniformes. C'est-à-dire, on peut utiliser le même écran qu'on va utiliser aux États-Unis. Je vais parler des continents. On peut utiliser en Europe, on peut utiliser en Amérique du Sud, on peut utiliser en Asie. Ces designs d'Apple, ça nous permet d'utiliser ces appareils. Parfois, comme aux États-Unis, ils utilisent un modèle qu'il n'y a pas en Europe, c'est le eSIM. Ça vous parle, ça? Le eSIM?
Là, de nom du tout.
Ici, c'est les appareils qu'il n'y a pas de carte SIM.
Ah,
en fait.
Oui, d'accord. Oui, oui.
Ah, oui, eSIM, pardon. Oui, okay. J'avais pas bien entendu. Oui,
oui, avec Verizon et tout ça.
Verizon, ces appareils, quand je me souviens, quand je suis arrivé ici en Europe, je trouvais, je connaissais pas, ils n'existaient pas ici. Et ils faisaient ça avec les iPhone 4, 4S. Là, c'est revenu maintenant. Hein. Mais ils existent aux États-Unis depuis un bon moment. Mais quand on compare Android, la différence au niveau d'Android, qui est Android, il y a plusieurs fabricants.
Il y a une vingtaine de marques. Ouais.
Voilà, tout à fait.
Et on rentre là-dedans. Et c'est la problématique d'Android, c'est quand on ne connaît pas. Nous, on fait tout. Tous les marques, ici, on travaille avec nous. Et pourquoi ? Parce que les écrans des OLED et AMOLED, c'est Samsung qui a créé ces écrans et depuis un bon moment qu'ils utilisent. Et Apple, les gens vont aujourd'hui réparer un téléphone Apple, va trouver la même pièce de n'importe de quel pays, ça va marcher.
Ouais.
Contrairement les Android, par exemple, je vais donner un exemple ici de la gamme A12. Ce téléphone, je connais 9 différents.
C'est compliqué. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps encore, effectivement.
Il a 9 différents et séries, en fait, de ces téléphones.
D'accord.
Et parfois, il a des lots, des cartons, des téléphones, des écrans qui arrivent ici, qui étaient marqués HS. On va tester l'écran fonctionnel. Mais la personne, le technicien qui essaie de réparer ce téléphone, il ne comprenait pas, il ne sait pas qu'il existe plusieurs.
Il y a des problèmes de compatibilité sur un même modèle, en fait.
Il existe pour le modèle américain, Amérique du Sud, Asie, etc. Ouais. Mais ça, depuis 2000, du début, qui s'en
sont fait comme
ça.
Oui, tout à fait.
Et les Huawei, il fallait faire une mise à jour sur
pour les écrans.
Pour accepter le nouvel écran.
D'accord.
Et là, maintenant, Samsung, il a lancé cette fonctionnalité-là. Okay. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir la connaissance de connaître un peu
ce type de problème. Ouais.
Ce type de problème, parce qu'il va acheter un écran de 200, 300 euros, il va jeter à la poubelle, il va tester un autre fournisseur, et ça va être toujours pareil. Donc, ça, la problématique, c'est que ça. Mais normalement.
C'est beaucoup plus diffus, en fait. Android, t'as effectivement 20 marques. Ils font chaque année 100 modèles.
Ils font un peu ce qu'ils veulent, oui.
Voilà.
Et chaque année, il y a 20 marques fois 100 modèles.
Oui.
Pour le technicien, il doit connaître 2000 téléphones.
Oh, super,
c'est ça.
Là, on répare beaucoup la gamme, les téléphones de Google, les Google Pixel. Google Pixel, maintenant, il y a l'histoire de l'empreinte qu'il faut enregistrer dans le logiciel pour reconfigurer cette empreinte après avoir changé l'écran. Et tout ça, c'est des études qu'on fait, des recherches qu'on fait pour comprendre comment fonctionne chaque marque, chaque structure, chaque modèle. Mais En résumé, je pense que quand on va monter un écran, c'est plus facile au niveau de Apple. Hein.
Ok.
Hein. Voilà.
Okay. Oui, je suis assez d'accord, tout à fait, oui.
Après, la histoire, c'est que quand on regarde au niveau de trouver des pièces, effectivement, qui les marquent depuis le début, et fournissent la pièce d'origine. Depuis le début, on peut acheter la pièce originale, si on veut. Voilà.
Oui.
Okay. David, qu'est-ce que tu penses du bonus réparation et des initiatives du gouvernement pour inciter à faire réparer ces appareils? Est-ce que les clients connaissent ces avantages quand ils viennent chez toi?
Alors, c'est un peu compliqué, cette histoire. Le bonus réparation, c'était une très bonne idée au départ, parce que ça va dans le sens de l'écologie, forcément, ça incite les gens à réparer. Mais il y a eu malheureusement pas mal d'erreurs, je pense, dans la conception du système. Ouais. Par exemple, je pense... Alors moi, je ne l'ai pas, hein, je ne le prendrai pas pour l'instant, pas en l'état en tout cas, peut-être que j'y viendrai plus tard, mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai beaucoup de collègues, par contre, qui l'ont pris, donc du coup, forcément, on en parle assez souvent. Les temps de dossier sont déjà beaucoup trop lourds, c'est-à-dire que quand on va réparer un écran sur un téléphone à un client, on va devoir passer quasiment une demi-heure derrière pour remplir le dossier. Donc forcément, ça va impacter sur le tarif final pour le client. Donc finalement, le client, il a l'impression de faire une bonne affaire aussi de son côté en faisant réparer son écran ou n'importe quel appareil finalement dans le domaine. Sauf que non, parce que le réparateur va devoir augmenter son tarif pour pallier à ce problème de temps perdu.
D'accord,
donc le client, il pense gagner un petit peu de sous, mais en fait, il va payer plus cher une intervention qui finalement lui aurait peut-être coûté moins cher. Et même en enlevant ce bonus, eh bien finalement c'est pas toujours très intéressant. Ouais. Ça, c'est le premier problème. Il y a un autre problème qui m'a vraiment choqué et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs actuellement, c'est-à-dire que quand on veut se faire agréer, hein, on va parler d'agrément finalement de nouveau, il faut que quelqu'un qui fasse partie de ce système-là vienne sur place pour finalement vérifier que tout est en place, tout est ok, tout est dans les clous. Le problème, c'est que ces personnes qui viennent vérifier ça ne sont pas toujours, voire même pas du tout dans le domaine de la réparation. C'est un peu compliqué en tant que réparateur d'accepter que quelqu'un vienne nous juger sur un domaine qu'il ne maîtrise pas. Oui, donc c'est vrai que c'est un peu délicat. Et se faire retoquer, j'ai des collègues qui se sont fait retoquer pour certaines choses. Et c'est assez embêtant parce qu'on se fait retoquer par exemple on revient sur Apple, ne pas avoir le système anti-statique, c'est un truc tout bête, hein, mais pour certains appareils il n'y a pas du tout besoin d'en avoir, par exemple, mais comme la personne qui vient regarder cela ne le sait pas forcément, ça va retoquer, donc c'est un peu dommage. C'est un peu branque-ballant de ce côté-là, et d'ailleurs ils se sont un peu cassés les dents parce que finalement il y a eu peu de réparateurs à appliquer ce système. Ça va peut-être venir, hein, mais pour l'instant, c'est pas formidable. Et il y a aussi un dernier point qui me gêne, c'est les barèmes. Par exemple, moi, quand on m'amène un PC portable en réparation, ça peut très bien être un problème de BIOS ou un problème de connecteur dessoudé à ressouder, des choses comme ça. C'est facile à réparer, ça, pour nous. On est bien en dessous du barème minimum, c'est-à-dire que le barème pour un PC portable actuellement, c'est 150 €. Sauf que parfois, on a des interventions qui vont compter 59, 69 €. Donc là, le client, il pourra pas avoir accès à ce bonus, ce qui est dommage parce que finalement il pourrait tout à fait y prétendre, dans le principe ça reste une machine en panne, mais comme il y a un espèce de barème, bien ça bloque, donc ça fait que les réparateurs finalement trichent pas mal. J'ai beaucoup de collègues qui me disent on fait des fausses factures, finalement on met sur la facture qu'on a changé l'écran, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, alors qu'en fait pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont finalement réparé telle ou telle pièce ou telle carte mère et c'est un peu, on est un peu dans le mensonge finalement, donc c'est un peu dommage, je trouve, de ce côté-là. L'idée était bonne, mais je pense qu'il y a encore du travail, il y a du chemin.
Ok. Jean, quid des autres appareils Apple comme les montres, les AirPods ou les HomePod? Est-ce que tu as les mêmes problématiques que pour les iPhone et les Mac?
Les Apple Watch, c'est une spécialité qu'on fait ici chez nous, quoi. Le reconditionnement des vitres, particulièrement si on a. C'est un outil que j'adore réparer. Ici, on fait entre 5 et 10 pièces par mois, parfois par semaine. Hein. Parce que la pièce, c'est quand même cher, la vitre des Apple Watch. Et nous, on arrive à reconditionner ces appareils-là, surtout les Apple Watch. Après, les AirPods, aujourd'hui, avec les iPhones, les AirPods, pas beaucoup. C'est rare, les iPods maintenant. Et les MacBooks, c'est pareil, c'est ce que disait, ce qu'on a parlé avec David tout à l'heure là, c'est l'expérience qu'on a pour travailler avec les cartes à mère, parce que les schémas maintenant sont fermés au niveau des iPads, surtout les iPads et Mac. Mais on arrive à travailler bien les cartes mères des MacBooks.
Okay, ouais.
Surtout les Apple Watch, on arrive à bien travailler. Sauf que là, pour HomePod, non. Ce n'est pas un produit qu'on travaille beaucoup avec.
Okay.
Il y avait un réparateur qui avait fait, je me rappelle, pour pas les HomePod mini, mais les premiers HomePod, il y avait un petit composant qui lâchait sur l'alimentation.
Ça on faisait beaucoup, Gilles, aussi.
Ouais. Mais parce que c'était pareil chez Apple, c'était, vous payez 400€ pour la réparation.
Ouais.
C'était un gâchis, quoi.
Le HomePod, on a eu, là, pas beaucoup, on a fait, cette année, on a fait 4 ou 5 pièces, mais parfois c'était ça, juste qu'on capaciteur, une chose qu'elle achète qui coûte $3, 4 tout réduire de notre pièce, et c'est réparé, voilà, mais...
Par contre, pour démonter...
C'est ça. Non, pour démonter, ça va. Le problème, c'est remonter après.
Oui, voilà, c'est vrai. Sans s'inverser du démontage.
C'est ça.
Gilles, je vais te laisser le mot de la fin pour parler du Studio Drive. Donc, c'est un système de SSD tiers qu'on peut mettre dans le Mac Studio. La campagne est terminée, vous avez largement atteint votre objectif. C'est quoi la prochaine étape?
Les Mac Mini M4. Alors, c'est un truc, moi, je suis honteux tellement ça a été facile, en fait. C'est pas...
Et c'est pourtant formidable.
Il n'y a rien de miraculeux. Le truc de départ, c'est que j'avais vu des vidéos de gens qui, sur YouTube, avaient dit, tiens, il y a un verrou logiciel dans le Mac Studio. Puis là, je me disais quand même, peut-être pas, parce que moi, j'avais déjà fait des mises à jour, j'ai déjà dessoudé des Nandes sur mon propre MacBook Air, de mettre des Nandes plus grandes, et puis... honnêtement, je voyais aussi des réparateurs chinois qui faisaient ça sur des cartes mères de MacBook Pro. Il y en a un qui s'appelle Master Liu. Voilà.
Oui, tout à fait.
Je me disais, si on le fait sur les MacBook Pro, je veux dire, sur le Mac Studio, ça va être encore plus facile parce que c'est des cartes d'extension. Enfin, je trouvais ça honteux, en gros, qu'on achète une machine à 2500€, puis qu'il n'y a qu'un petit SSD de 512Go et. Et en plus, c'est facile à changer.
Et pour le Mac Mini M4, tu as commencé à faire des tests?
On a déjà pratiquement fini de travailler sur les cartes. Alors, on sera probablement dépassé, je pense, par les Malaisiens d'iBof qui sont... Nous, en fait, on est en train de faire la fabrication, enfin, de finir la fabrication des cartes pour lesquelles on a eu le Kickstarter. Donc, on est les mains dedans, je suis dans les commandes de 800 puces, faire fabriquer les PCB, etc. Ouais. Donc c'est, j'ai paradoxalement, je vais être en retard sur les Mac Mini M4, même si on a déjà depuis longtemps acheté un Mac Mini M4 normal et on a quasiment fini de faire les schémas et en fait, moi mon principe c'est de tester d'abord les Mac Studio, les Studio Drive. J'ai fait appel à des testeurs aux États-Unis sur MacRumors et on a j'ai commencé par envoyer des cartes en juillet à des testeurs et c'est qu'au bout de 2 mois de test où je voyais que ça marchait bien que j'ai lancé le Kickstarter. Donc là, si je fais pareil, je vais arriver qu'en février ou mars, donc il y aura probablement des gens qui en proposeront avant moi et c'est tant mieux.
Le principal, c'est que ça va dans le bon sens.
Oui. C'est moi, j'avais même une peur, en fait, c'est que ces cartes-là, elles sont faisables que parce qu'on a des fournisseurs en Chine qui nous fournissent des pièces, enfin des puces. Des puces de régulation d'alimentation et de stockage. Et ça, c'est quelque chose auquel Apple s'oppose farouchement. Alors, très clairement, les puces, elles viennent pas d'Apple, elles viennent des usines de Kioxia, de Inix, de SanDisk. Bon. Mais Apple a des contrats, et Kioxia, Inix, SanDisk, ils vont pas risquer leur contrat avec Apple pour notre beau yeux. C'est pour nos beaux yeux, ils vont pas faire ça. Donc on est obligé de se fournir en plus neuve, mais sur du marché sur un marché qu'à Shenzhen. Et la peur que j'ai, moi, c'est que un jour, enfin, Apple, ils aiment pas ça parce qu'ils veulent garder leur marge sur les puces. Donc on,
oui, bien sûr.
Voilà, on est très content d'avoir réussi à faire ça. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres gens qui le feront. Et il y a aussi d'autres projets. Je sais qu'il y a il y a plusieurs sociétés qui travaillent sur le fait d'adapter des puces NAND au système Apple. Mais cette fois-ci, en n'achetant pas les puces NAND exactement comme Apple les fait, mais en adaptant des puces NAND Toggle, enfin des trucs plus standards. Ça, ce serait fabuleux. Voilà, ce serait encore un pas au-dessus.
Oui.
Ouais, c'est pas encore. C'est pas encore.
Ce sera la prochaine étape, tout à fait, oui.
On peut travailler sur ces projets-là.
le temps me manque de mon côté, malheureusement. C'est vrai que je suis vraiment assidûment toutes ces évolutions et j'aimerais pouvoir participer au maximum possible, mais malheureusement, ouais, c'est toujours le temps que ça prend, en fait, oui, et ouais. Temps qui nous manque, malheureusement, c'est toujours pareil. C'est du reverse engineering, hein, quasiment, donc, dans certains cas, oui. et ça prend un temps colossal, malheureusement. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut une équipe à côté, quoi.
Et des moyens, hein, parce que...
Bon, et des moyens, tout à fait.
Moi, rien que pour voir que je pouvais échanger des cartes entre deux Mac Studio, il a fallu que j'achète un Mac Studio à 5000 euros, l'autre à 2000.
Oui, forcément.
Et puis j'ai échangé les cartes. Bon, ça demande des sous, et après... Mais il y a... Les prix d'Apple sont tellement stratosphériques là-dessus, ils sont
oui.
à... l'option 500 gigas est à 1000 euros.
Oui, ouais.
Enfin... Pas 500 gigas, l'option 2 Tera est à 1000 euros, l'option 4 Tera est à... Ouais, ça monte très 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 vite. Et
on se rappelle du pied de leur écran qui coûtait quasiment pas le prix de l'écran, mais pas loin, on va dire. Ouais. J'exagère, mais bon, c'est vrai que des fois, ils mettent des options relativement chères pour pas grand-chose.
Ouais. Ouais.
Moi, ce que je vois, c'est un gâchis monstre, parce que je vois des gens qui ont acheté des Mac Studio à 2500 balles et... Mais ça existe vraiment, il y a des gens qui démarrent sur un disque externe USB parce qu'ils ne peuvent pas démarrer sur un disque interne qui est trop petit, il n'y a pas de place. Alors on en revient à des choses, moi ça me chagrine un peu, quoi, ouais. Parce que que des gens achètent des machines aussi puissantes, aussi rapides, et puis ils démarrent sur un disque externe USB,
oui, ouais,
c'est pas fabuleux.
C'est un peu dommage, ouais. On va dans le sens inverse, ouais. Ouais, tout à fait.
Alors, moi je préférerais clairement qu'ils mettent des slots M2 dans les machines.
Hein. Ouais, ce serait formidable, ouais. Oui.
D'ailleurs, j'ai vécu en 2017, j'avais trouvé qu'on pouvait mettre des SSD NVMe dans les Mac. C'était une période folle, on avait 5 millions de messages sur des forums où les gens, ils ont tous essayé de faire ça. Enfin, voilà,
oui.
Ça a été, ça se reproduira pas, mais ouais. C'était génial, quoi.
Eh bien, merci à vous trois pour cet éclairage sur les coulisses des magasins de réparation indépendants. Je mettrai un lien vers vos sites dans la description pour nos lecteurs qui veulent en savoir plus sur votre travail. Jean, merci d'être venu, à bientôt.
Bye bye.
Gilles, à la prochaine.
Bah, merci Félix. Oui.
Et David, encore merci.
Eh bien, merci à vous tous, hein. C'était effectivement très intéressant et très sympa de discuter avec tout le monde.
Et nous, on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.